Déjà, ce que j'aime dans l'œuvre d'art, c'est la solitude et le silence. Et je trouve que ça permet un moment de bloquer le temps. Il n'y a plus la nécessité d'avoir une réaction, d'avoir un geste ou d'avoir une parole. On peut totalement être dans une relation exclusive. Exclusive sans aliénation.
Le mot d'aliénation est un mot fort. T'as le sentiment que dans le temps dans lequel on est tous, il y a quelque chose qui est perdu, une liberté.
Il y a comme une forme d'obligation à être rythmé par la production, produire du sens, produire des mots, produire de la pensée, se positionner. Et que très souvent, en fait, l'idée, elle se développe parce qu'il y a un échange. Elle se concrétise par le questionnement, par la fusion à un moment donné entre deux, trois ou quatre personnes qui conversent, qui
Par la
discutent,
rencontre, alors.
par la rencontre
Par le lien, puisque la galerie s'appelle En Lazar, c'est-à-dire, je crois que tu m'as dit le lien.
Oui, c'est lien en espagnol.
C'est un lien qui semble vital, là, puisque tu dis que les choses se font plutôt par ce lien-là que par des.
Des affirmations.
Alors, l'œuvre d'art.
À partir du moment où un artiste l'expose, il y a une part qui lui appartient plus.
Et cette part qui appartient plus à l'artiste, est-ce que c'est l'œuvre?
Oui, c'est l'œuvre.
Donc l'œuvre n'appartient pas à l'artiste.
Elle appartient à l'instant, à la rencontre, elle existe à partir du moment où il y a la rencontre avec l'autre, qui est plus l'artiste. C'est assez fort quand je dis que elle lui appartient plus, qu'elle existe d'autant plus que lui ne soit plus présent. Elle vit sa propre existence. Elle va aller soit chez quelqu'un, soit dans un musée. Elle va être des fois volée, cachée. Elle a une existence elle-même. C'est ça que je trouve merveilleux. Et j'adore les artistes pour ça, c'est qu'ils donnent quelque chose qui après ne leur appartient plus. Une œuvre, plus je sens qu'elle est offerte, plus je peux entrer en elle.
T'es presque en train de dire qu'en fait un artiste c'est quelqu'un qui fait un enfant pour le donner.
Oui, c'est ça.
Et là je comprends que tu sois bouleversée.
Oui,
J'en vois pas beaucoup, tu vois, des mères, des pères qui font des enfants pour les donner.
un artiste, il accepte la séparation avec une œuvre. Il accepte ça. Et c'est là où je le trouve fascinant. Il y a toujours une petite forme de peur, mais c'est ce qui nourrit ce qui va être la prochaine.
C'est vraiment ce que tu donnes, ce que tu acceptes de perdre, qui te donne la vie.
C'est une façon d'accepter de perdre. Certains, pour moi, sont des artistes puisqu'ils arrivent à s'extraire d'eux pour donner quelque chose. Mais une fois de plus, c'est pas une hiérarchie, c'est pas être plus ou moins. Non, c'est un ensemble.
S'extraire de soi pour aller vers l'autre.
Pour pouvoir aussi accepter le fait de ne pas pouvoir répondre à des questions.
J'entends, juste, c'est pas la première fois là que tu impliques la violence d'avoir à répondre. Et dans cette façon que tu as de me parler de l'œuvre, il y a une incertitude qui ne veut pas avoir à rendre compte. Je sais pas, j'ai
Je
sentiment.
réfléchis à quelque chose auquel j'avais pas forcément pensé. Construire la galerie, c'est créer cet espace-là, ça c'est évident.
Un espace de rencontre, un lien.
Voilà. Et il y aura toujours une part où l'œuvre sera prédominante. D'elle-même, elle impose quelque chose. Et elle impose cette dimension qui pour moi existe dans les œuvres d'art.
Qui est?
Qui est qu'il n'y a pas, il n'y a pas de réponse, et le simple fait d'accepter qu'il n'y ait pas de réponse redonne une forme de liberté et redonne une énergie collective.
Là, ça devient de plus en plus clair. Elle impose ça, comme tu dis.
Nature.
Et quelque part, et je vous emmerde.
Ouais, oui, c'est très clair.
Il y a quelque chose qui est posé de cette façon-là. Il y a voilà, je suis comme ça, et peut-être même que ça vous emmerde, mais comme ça, c'est libre, c'est-à-dire sans avoir à faire quoi que ce soit pour être accepté ou expliqué. Et c'est en même temps un acte de création et un acte politique. Tu lis ces deux.
Complètement.
Ces deux moments sont totalement liés.
Ouais, c'est impossible de dissocier les deux. La galerie, c'est des œuvres dans un espace où on converge, converse, échange et où on vend. Et le choix des œuvres a un lien forcément avec ce que je suis, dans autant ce que je dis et ce que je ne dis pas.
Au fur et à mesure qu'on se parle, je me rends compte que ce silence que j'avais perçu tout de suite, c'est pas n'importe quel silence. C'est quelque chose d'actif, qui a autant de poids que ce que tu dis, en tout cas qui fait partie de ce que tu dis. Je suis venue quelques fois, deux fois, chaque fois qu'il y avait un vernissage, j'ai bien senti que tu avais créé un lieu, mais je ne savais pas quel lieu. Et là, en t'écoutant, je perçois beaucoup mieux quel lieu tu crées.
Je pense que c'est pour ça aussi que ça a pris beaucoup de temps.
Oui, justement. Comment tu en arrives là? Comment tu en arrives à avoir une galerie d'art, à être...
C'est des rencontres avec... Je pense même que quand j'étais dans le milieu de la musique électronique, ce que j'aimais, c'était presque aussi, à des moments, la possibilité du silence et de l'isolement, même dans le fracas de cette musique. Et en fait, plus la musique pouvait être forte, comme dans du hardcore, plus je trouvais qu'il y avait aussi une forme de liberté où on pouvait être collectivement avec les autres, comme une forme de plasma autour de soi qui était rassurant, même si la musique était violente, de pouvoir aller exprimer toute la violence qui nous est personnelle et ne la retourner contre personne. Alors ça peut sembler comme une forme d'exutoire, de catharsis, on pourra donner tous les mots. Mais je trouvais que dans les débuts de la musique électronique, il y avait cette même générosité.
Il y a peut-être quelque chose à expulser, que l'œuvre expulse sans tuer.
Le ratio du silence, c'est aussi ça. Je m'interdis d'aller sur certains terrains, parce que pour moi, ça nous ramène constamment à cette idée que la nature humaine est ainsi. Elle est guerrière, en fait.
Je comprends, mais c'est pour moi très important de te demander, s'il ne faut tirer aucune conclusion de rien, ne pas penser que l'homme a une nature guerrière. Ou... Comment voir, même sans s'expliquer, tout ce sang qui coule? Comment ne pas entendre ces hurlements partout?
Je les entends forcément. On se ramène collectivement tout le temps à notre propre nature, comme si elle était une fatalité, une impasse, et que c'était indépassable. Non. On peut tout à fait évoluer, on peut tout à fait changer, on peut tout à fait exprimer les choses d'une façon différente. Ce n'est pas une fatalité. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que nous décidons. Nous les décidons collectivement, nous décidons les frontières, nous décidons la propriété, nous décidons la hiérarchisation des valeurs, nous décidons de toutes ces choses-là. C'est totalement faux. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de divinité derrière tout ça.
Donc ton silence, c'est un silence qui résiste. Non, mais il faut que je le pousse au fond, il faut que tu accouches aussi, tu vois, parce que il faut... On se parle, donc...
Oui.
Il faut que je puisse percevoir, et donc là, je commence réellement à percevoir ce qu'il y a dans ce silence, et dans... Ce que tu dis quand tu parles d'œuvre, parce que tout de suite, une œuvre, c'est terriblement singulier.
Oui.
C'est terriblement singulier et tout de suite collectif. Et si ça l'est pas, si ça n'est pas exposé, est-ce que ça reste une œuvre? C'est une question que je te pose.
Ah, c'est une très bonne question. J'adore cette question.
Bah alors, super. Je te la pose. Qu'est-ce qu'il faut penser donc d'une œuvre qui n'est pas exposée?
Mais c'est ce que j'apprends en ce moment. C'est aussi des choses que j'apprends. Parce que tant qu'elle n'est pas exposée et qu'elle n'a pas ce champ en fait, qui vraiment ouvre, du coup, elle est toujours associée à l'artiste. Elle a toujours un lien très étroit à l'artiste. Qu'est-ce qu'il fait, comment il travaille. Et c'est vraiment au moment, à mon sens, où elle est exposée, qu'elle prend toute sa dimension. Mais tout ça reste une perception extrêmement personnelle de l'œuvre d'art.
En tout cas, ça mérite d'être posé comme question. C'est le même genre de question quand tu dis « Est-ce que le monde existe quand tu ne le vois pas ?» Tu vois, c'est-à-dire c'est quoi exister pour quoi que ce soit. On n'est pas obligé d'y répondre, c'est toi-même qui le dis. Voilà. Jusque-là, jusqu'à ce que tu me parles, je me sentais responsable de ce que je crée. Ce qui ne veut pas dire que je suis morale, je ne suis pas morale. Je peux créer quelque chose de totalement pas moral. Mmh. Mais il y a cette responsabilité qui, pour moi, va avec ce que je fais. Donc voilà, je te balance aussi la question de l'éthique.
Le lien entre l'œuvre d'art et l'artiste est atmosphérique.
Ouais.
Il y a une part de lui que, de toute façon, il abandonne... lui, elle, hein. On est toujours d'accord sur ça.
Oui, il n'y a pas de souci.
Voilà, qu'il abandonne. Il y avait une artiste que j'ai rencontrée à Rennes, j'avais adoré son travail. Elle nous avait pris en photo, on jouait une pièce de théâtre, et elle remettait tout le temps la pellicule. Et à chaque fois, on se revoyait dans l'instant d'avant et dans l'instant présent, et du coup, on se projetait dans l'instant futur. Et un artiste, quand il crée, je trouve qu'il fait ça. Il donne un bout de lui du passé, du présent, et il sera toujours là dans le futur. C'est pour ça qu'il devient toujours très atmosphérique. Mais dans cette atmosphère, il n'y a pas l'imposition ou une forme d'inquisition de dire « je suis là ». Non. L'œuvre d'art est là, et à partir du moment où tu la regardes, elle est tout autant à toi qu'elle est à l'artiste. Et c'est pour ça que j'adore les immenses musées, des œuvres d'art... On peut les voir, on peut les revoir, on peut y retourner. On a l'impression qu'elles peuvent toujours nous suivre et qu'elles peuvent être toujours avec nous. Il y a de ce fait-là la responsabilité collective de l'accueil que l'on peut faire à une œuvre.
Donc il y a toujours le collectif, la responsabilité est toujours collective.
Même si l'expérience est individuelle, elle est collective.
J'entends.
Il est là mon positionnement politique. Oui. On ne peut jamais se dissocier les uns des autres. On peut exister individuellement, bien entendu, avec nos caractéristiques, nos spécificités. Mais on fait partie constamment d'un groupe. Et tout ce qui se passe dans ce groupe planétaire est une responsabilité collective.
Oui, là, comme ça, dit comme ça, je l'entends. C'est rarement ce qu'on entend quand on parle d'art. Parce que ce que tu dis, c'est que ça engage une vraie responsabilité du genre humain.
Je le pense, voilà.
Et l'art serait justement le lieu de cette responsabilité universelle.
Oui. C'est une question de choix. Le fait que dans un lieu, il puisse y avoir ces instants-là et ce moment-là, c'est ça qui me satisfait. Et plus je me sens liée avec les œuvres que j'expose, plus je me sens liée avec la possibilité de creuser cette idée du lien, de converser, de discuter, d'échanger et puis aussi de vendre. Parce que voilà, ça c'est le lien aussi avec la galerie et l'œuvre d'art.
On est obligé de s'arrêter sur la notion d'argent
oui.
dans l'art.
Voilà, l'argent est un moyen extrêmement nécessaire et clair pour échanger tout ce qui nous est indispensable au-delà de la fraction rationnelle. Voilà.
Donc, l'œuvre du côté de l'irrationnel.
Oui. Mmh. Oui, c'est irrationnel. Mais c'est un besoin irrationnel. Mais irrationnel ne veut pas dire qu'il n'est pas nécessaire.
Et même, tu dis que ça veut dire totalement nécessaire.
Voilà, complètement.
Voilà, ouais. C'est ça que j'entends. Ouais. C'est que cet irrationnel qu'il y a dans l'art, tu le vis comme vital, à l'origine d'une vraie liberté. Que s'il n'y a pas cet irrationnel, cette respiration fondamentale, il n'y a pas de respiration du tout.
Il n'y a pas de respiration. Oui, c'est pour voilà, c'est exactement la phrase écrite sur le site internet de la galerie. L'art est l'irrationnelle respiration des civilisations.
Il n'y a rien de plus puissant que le souffle.
Oui.
L'œuvre, c'est presque ce qui permet à l'humanité de respirer.
C'est une forme d'émancipation. C'est à ce moment-là qu'on peut s'émanciper. Déjà générationnellement, chaque génération s'émancipe à travers ses créations. Elle crée de nouveaux sens, repères, liens, symboles, identités. C'est ça qui est super beau, c'est ça, c'est l'émancipation des générations à travers la création. Et elles insufflent là aussi de nouvelles mœurs qui au fur et à mesure sont réappropriées par les générations les plus anciennes pour en faire aussi autre chose. Et c'est ça, tout ce magma qui se déplace dans le temps et dans les générations qui... C'est pour ça que je pense qu'on est tout à fait dans la capacité d'évoluer et de passer à autre chose que de se foutre sur la gueule.
On a cette capacité depuis la nuit des temps.
Je sais.
Je suis obligée de faire l'avocat du diable.
Je sais.
J'entends ce que tu dis et je sais que c'est comme ça qu'il faut le dire. Chaque seconde, on a cette capacité. On l'a, chaque seconde. Mm. Et c'est fou parce que j'ai parlé avec des très jeunes et j'ai été vachement étonnée parce que il s'agissait de création. Instinctivement, ils sentent, ils savent que c'est là qu'on respire.
La dimension aussi de l'extension du mot création dans l'appropriation générationnelle, on crée constamment avec les idées, les situations, les éléments qui sont autour de nous. On peut être tout le temps dans des processus de création. Une œuvre, c'est une œuvre. Mais la création peut être tout à fait quotidienne. Et c'est cet enrichissement-là vers lequel moi je suis attirée, constamment, tout le temps.
Et depuis toujours, tu veux ça.
Je veux ça. L'œuvre et l'esprit de création. C'est pour ça aussi qu'il y a toujours ce lien avec la politique. Moi, la politique, c'est aussi un lieu de création. On crée des idées qui vont progressivement nous faire passer à autre chose. Même la valeur que l'on met sur des actions, sur des objets, même l'économie, c'est de la création. Avec toute la technicité aujourd'hui de ces gens extrêmement intelligents qui savent calculer vraiment l'impact environnemental de chaque objet, de chaque tout ce qu'on produit, on pourrait mettre une valeur sur toutes ces choses-là. Donc tout est création parce que philosophiquement, on va réfléchir à long terme. Il y a une multitude de choses à faire passionnantes qui sont toujours liées à notre énergie de création.
De notre capacité de faire table rase.
Ouais, je suis entièrement d'accord.
Le plus difficile, c'est de changer. Souvent, on n'arrive même pas à changer un tout petit paramètre de rien du tout. Changer, renverser les valeurs, on a toujours voulu faire ça.
On a
beaucoup de mal.
Une partie d'entre nous a toujours eu envie de renverser la pyramide des valeurs. Dans cette dimension politique, je me pose souvent la question, je me dis, bon, je vis en Europe, je suis française, j'ai grandi dans les Hauts-Cantons, voilà. Les difficultés de la vie que j'ai rencontrées sont tout aussi habituelles et moyennes que beaucoup d'entre nous ayant vécu dans ce même contexte. Je ne viens que de là.
Quand tu dis que de là, tu veux dire ?
Que de ce petit bout de terre, d'espace, de temps et l'enthousiasme que j'ai à vouloir révolutionner le monde tout en gardant une multitude de contradictions dans mes comportements quotidiens. Et que pour assumer ces contradictions, ces paradoxes et presque ces compromissions, il nous faut collectivement l'assumer une fois de plus pour que ensuite ce débat sur ces grands moments où nous avons envie de faire évoluer les valeurs soit collectif. J'adore la politique, j'adore là. Et à un moment donné aussi, je repars dans ce silence-là parce que des fois j'ai peur d'être un peu seule, je ne suis qu'un imposteur.
Je t'écoute et... J'aime ce que tu dis. J'essaie juste de le rattacher à ce lieu, Enlazar, parce que tu reviens toujours au lieu, c'est-à-dire au point d'ancrage. Et tu reviens au point d'ancrage pour tout de suite y accrocher le monde entier. Et je me rends compte que c'est comme une bouée en pleine mer, c'est comme si tu étais en pleine mer. Tu dis aussi que on est tous en pleine mer, tu n'es pas toute seule sur ta bouée. Si on assume justement ce naufrage, ou en tout cas d'être dans cet déséquilibre, et que c'est comme ça une heure, ça sort de cette mer-là démontée, si on assume ça, on va pouvoir de nouveau parler.
Oui, c'est exactement
parce que c'est là où tout à coup je me dis que quand tu dis lieu, tu dis en fait dialogue. Tout, à chaque fois qu'il y a une œuvre et qu'elle est exposée, c'est ton lieu qui se crée. C'est le lieu de cette alliance-là.
Oui.
Tu essayes quelque chose. Tu dis j'aime le politique, j'aime l'art. Tu essayes, tu donnes rendez-vous à ces deux dimensions-là, à travers l'œuvre, comme ça, pour renouveler le dialogue.
C'est tout à fait ça.
Et ça me touche beaucoup, cette œuvre qui se donne. Elle s'expose et en s'exposant, elle crée le lieu d'un vrai rendez-vous entre l'art et la politique et qui peut-être va nous permettre de parler et peut-être changer quelque chose. Donc c'est vraiment un lieu politique, une galerie d'art.
Oui, pour moi, oui. Oui.
Parce que justement, je ne savais pas jusqu'où je pouvais aller. Donc,
C'est très clair pour moi. C'est quand je suis dans cette position-là que j'ai le plus envie, en fait.
Quelle position ?
La position où je m'en fous d'être galeriste. La posture sociale ne m'intéresse pas. Et j'ai besoin de sentir le désir chez les artistes de faire l'exposition. Et à des moments, j'ai besoin aussi d'être motivée par le collectif. Ouais. C'est comme ça. Je marche comme ça. Des fois, la nature humaine me désespère et je n'ai pas envie de faire une expo. Parce qu'elle me saoule. À quel point elle est onibulée par des choses qui sont absurdes. Et à des moments, ça renaît. J'ai à nouveau envie de le faire parce que ça germe à nouveau en moi. Et je me dis, mais de toute façon, je ne peux pas vivre sans. Et j'ai besoin de sentir que les artistes ont envie aussi de le faire. Et de monter l'expo. L'expo, elle ne se monte pas... Parce qu'il y a un planning, parce qu'il y a un truc et tout ça.
Ce qui est engagé, c'est beaucoup plus radical. C'est pas seulement ton rapport à l'art.
C'est le seul endroit où je me sens libre.
Ouais.
Peut-être si. Et après, quand j'ai les mains dans les plantes et la terre.
Voilà. Donc, pour toi, il n'y a pas de difficulté si je rapproche ton engagement artistique à un engagement politique. Il n'y a pas de difficulté si je rapproche ces deux mots. Tu ne te sens pas trahi, abîmé par le mot politique. Parce que souvent, les artistes n'aiment pas, ou les gens qui sont dans la création n'aiment pas, qu'on ajoute à cet acte de création un engagement politique. Pas toi.
Le mot politique, ça peut me paraître fou, mais c'est un mot qui me fait rêver.
Waouh! Ça, j'ai jamais. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait rêver dans
Parce
politique?
Parce que dans le politique, tout, ça veut dire que tout est possible. Ça veut dire qu'à partir du moment où on converse, on discute, on a la possibilité de ne pas être d'accord et se régaler de ne pas être d'accord. Parce qu'il y a une émulsion intellectuelle, mais qui fait vibrer tout le corps et c'est la projection dans le possible.
J'ai pas l'impression que c'est comme ça, la politique, aujourd'hui. Ce que tu entends par politique, c'est vraiment le dialogue au plus haut point. La plupart du temps, la politique, c'est de la rhétorique, c'est pas du dialogue. C'est bien ça le problème.
Parce que il y a ce danger du politique, le pouvoir rend fou. Et le politique, il bascule à partir du moment où il y a la posture de quelqu'un qui incarnerait la politique.
Ouais.
Mais la politique, il faut pas l'incarner. Il ne faut pas l'incarner physiquement. Il ne faut pas se sentir l'objet d'une mission. Quand un homme politique dit « j'ai une mission », non. Si ça devient corporel, que ça devient ton image, c'est plus politique. La politique, c'est s'oublier, c'est s'effacer. Et c'est comme ça qu'il me semble qu'on peut être toujours dans le dialogue.
Ce qui est visé, c'est d'être dans le dialogue.
Complètement.
Et c'est avec des œuvres que toi, tu arrives à être dans le dialogue. Ton expérience du dialogue, elle se fait à travers la création artistique. C'est ce que tu as l'air de dire, ou pas?
C'est là où moi, je suis capable de le faire.
D'accord.
Ailleurs, j'ai essayé,
oui,
dans le politique, de m'engager.
Oui.
Mais en fait, la folie de quelque chose qui devient très rigide au niveau du discours et au niveau de la fermeture,
oui,
me fait paniquer. Voilà. C'est comme s'il fallait écraser l'autre pour pouvoir véhiculer une réflexion. C'est de la réflexion, et la réflexion, pour qu'elle soit collective, tu peux pas te fermer au dialogue.
Et tu penses, toi, tu trouves qu'à travers une galerie d'art, tu peux avoir cet espace de liberté. Les gens qui viennent, qui sont attirés par l'art, ou qui sont attirés par les œuvres, te semblent...
Oui.
Ou les artistes, dis-moi.
Oui, oui. Dis-moi. Voilà, ça revient à une conversation que j'ai eue avec une amie sur la prochaine exposition.
Oui.
Qui s'appelle Disproportion. Donc oui. Je lui montre les œuvres qui vont être exposées et elle me dit oui, mais ça a déjà été fait.
Oui.
Voilà, c'est des objets qui vont être disproportionnés par rapport à leur réalité usuelle. Bon, par exemple, des pinces à linge qui sont toutes petites comme ça et qui vont faire un mètre de haut, tout ça. Donc c'est de la disproportion. Je dis, mais l'objectif, il n'est pas pour moi de me dire je vais montrer ce qu'on n'a jamais montré. Je cherche pas à épater.
Oui, voilà. Oui.
C'est des créations qui mettent en lien des réflexions avec des indices d'accroche qui peuvent être le beau, qui peuvent être le répulsif, qui peuvent être l'humour. Et ça, c'est les indices. C'est ça qui c'est des petits hameçons. Et le lieu, la porte est ouverte, c'est pas des murs super nickel, c'est accueillant, même s'il peut y avoir des œuvres qui sont indigestes. Et il faut arrêter, il ne faut pas trop se prendre au sérieux non plus. On peut le faire sérieusement, sans se prendre au sérieux. Et de s'attraper les uns avec les autres. Parce que c'est ça qui est... Ça peut être drôle et profond. On se teste. C'est du jeu, c'est de la joute intellectuelle. C'est de l'énergie. C'est de l'envie. Bah, c'est ça, c'est se rendre... Avoir un espace à un moment donné où on est libre et il n'y a pas d'enjeu.
Libre et il n'y a pas d'enjeu. On est évalué tout le temps. On est dans l'évaluation tout le temps, tout le temps. Donc cet état où tu vis sans enjeu, qui n'existe pratiquement pas dans la société. À part peut-être quand tu vas dans les soirées. Justement ces moments, tu sais, qui sont faits pour ça, les spectacles et tout ça, pour te défouler, tu m'en parlais dans la musique électronique.
Oui.
Cette violence que tu peux laisser passer, parce que là, c'est le lieu, c'est le moment. Il y a un enjeu majeur dans la création. C'est justement... Ce lieu qui te permet d'exister sans être sous le regard de cette liberté. Cette liberté, il n'y a pas d'autre mot, c'est pas la peine de chercher autre chose. Quoi.
Ouais, complètement. What kind of music?
Hey.